Bonjour tout le monde et bienvenue à Angle Mort. Écoutez, aujourd'hui je vous parle, je vais vous amener des théories que vous n'avez peut-être pas entendues, mais qui circulent énormément en France, puis qui font l'objet, entre autres, d'un article dans Le Devoir aujourd'hui. Le Devoir, je vous rappelle, qui est plus du tout le journal poussiéreux, plate, qui était. Moi, j'y suis abonné. Très intéressant, très intéressant. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que je vous parle à l'occasion d'Éric Zemmour, qui était un journaliste très polémiste, qui a écrit plusieurs livres qui se vendent énormément, donc qui attirent un réel intérêt de la part d'une grande partie des Français. Et puis, alors lui, son dada, c'est l'immigration. Lui, ce qu'il dit, c'est que, grosso modo, l'immigration en France depuis une quarantaine d'années, donc depuis la fin de la guerre d'Algérie, là, on peut même ça mettre bien avant ça, a été, si tu veux, non contrôlée, ce qui fait en sorte qu'il y a des enclaves, ce qu'on appelle souvent les territoires perdus de la République. Donc, en banlieue de Paris, en banlieue des grandes villes, souvent, tu t'y reconnais plus, c'est plus la France, c'est rendu l'équivalent du Maroc, les commerces sont halal, etc., bon, blablabla. Constat qui est maintenant, qui avant était comme, oh mon Dieu, c'est épouvantable de dire ça, et depuis qu'il s'est porté officiellement candidat à la prochaine élection présidentielle en France, qui est en avril 2022, donc dans 5 mois, si je ne me trompe pas, ben c'est comme si ce thème-là a été imposé. Pendant longtemps, c'est vrai qu'on sentait ça tout le temps, genre les minorités, il ne faut rien dire, c'est vrai. Puis lui est arrivé, puis il a frappé là, à coup de 12 là-dedans. Alors, est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Moi, je vais vous trouver l'angle mort de tout ça, justement. D'abord, il y a des gens qui disent que c'est farfelu l'idée du grand remplacement. Qu'est-ce que c'est le grand remplacement? C'est une expression qui est amenée par un auteur, un romancier à la base, qui s'appelle Renaud Camus, et qui lui dit qu'actuellement, l'immigration non-européenne, donc principalement africaine, est en train tranquillement de remplacer la civilisation chrétienne, blanche, qu'on connaît typiquement française, celle des films de Louis de Funès, et puis blablabla. Bla, bla. Et puis, on lui répond souvent que c'est farfelu, que c'est juste une version très peureuse de l'immigration, parce que les musulmans en France représentent environ 8 % de la population. C'est que tu fais comme, hey, capote pas, franchement, 8 %. Sauf que c'est ridicule de répondre ça, parce que pensez-vous vraiment que quand le fonctionnaire accueille une demande d'immigration d'un Algérien qui sort sa règle avec sa carte puis qui dit, bon, ben là, il faut répartir ça bien équitablement. Là, dans le Nord-Pas-de-Calais, là, il en manque 4. Là. Vous avez vos 4, vous allez aller en haut. C'est pas de même, ça marche. Où vous pensez qu'ils vont, les immigrés? Et c'est la même chose dans toutes les villes du monde. Ils vont où il y a des gens de leur communauté. Ça fait que, règle générale, ils vont dans les grandes villes, dans les métropoles, qui sont plus mixées. Montréal est un parfait exemple. Donc, évidemment, si tu t'en vas dans une région en Provence, puis tu fais la route des vins, puis tu vas rencontrer des Français, l'image qu'on s'en fait depuis des centaines d'années. Mais effectivement, moi, je l'ai vécu, si tu restes à Paris, parce que j'ai vécu un an de temps à Paris, ben, tu te rends bien compte que c'est pas vrai qu'il y a à Paris 8 % de musulmans. Il y en a beaucoup plus. Puis dans certaines banlieues, ils sont en majorité. Donc, est-ce que ça fait de ça le problème de la France? Ben, c'est une autre discussion. Éric Zemmour prétend que oui, mais c'est pas une réponse de dire, tu prends un chiffre, puis après ça, tu fais semblant que c'est réparti bien uniformément sur le territoire. Ça, c'est de un. Deuxièmement, ceux qui disent que c'est une théorie farfelue, ben, t'es pas obligé d'aller loin pour voir qu'au contraire, c'est quasiment la marche inéluctable de l'histoire. Je me souviens plus c'est qui disait « la démographie, c'est le destin ». Puis on vit, nous autres même, ici au Canada, une situation où on est tous, nous tous, sans exception ou presque, on a grand remplacé les Autochtones. Sont où les Iroquois aujourd'hui? Tous ces peuples-là qu'on parlait quand on apprenait l'histoire du Canada, quand les colons européens sont arrivés, ils n'existent plus, là. Ils se sont fait littéralement remplacer. Donc, c'est pas vrai que c'est farfelu. Après ça, est-ce que c'est réellement en mouvement? Bien là, c'est une question de... Moi, je peux pas me prononcer, je sais pas, mais c'est pas vrai que de dire, « Ah, oh, mon Dieu, c'est donc bien... C'est négatif, c'est, à la rigueur, c'est raciste, etc. » Non, c'est faux. Je m'excuse. C'est tout à fait possible. Puis, effectivement, la France est peut-être en train d'être grande remplacée. Puis, si c'est le cas, bien, ça commencerait de même. Ça ne commencera pas autrement que des populations qui... C'est comme quelqu'un qui joue à risque. Le jeu risque, là, souvenez-vous de ça, c'est comme un jeu de guerre, là, t'as une carte du monde. Bon, mais si tu commences puis tu mets un petit pion sur chaque pays, tu ne gagneras jamais rien. La stratégie, des fois, c'était de mettre beaucoup de pions au Luxembourg, qui était petit, mais qui était entouré d'autres pays que tu pouvais attaquer, bon, blablabla. Fait que c'est n'importe quoi fonctionne de même. C'est-à-dire, il y a une concentration qui devient... C'est Hegel qui disait, à partir d'un certain moment, la quantité devient une qualité. Bon, ben, si tu dis, OK, il y a une quantité suffisante de gens qui viennent d'ailleurs, qui meublent un quartier, ce quartier-là, à un moment donné, s'agrandit, puis sur une longue période, ben, il se passe un remplacement de population. En quoi c'est farfelu? Est-ce que c'est ce qui se passe? Je vous répète, j'en ai pas la moindre idée. C'est trop facile, en même temps, de dire, « Hey, je suis allé dans tel quartier, c'est tous des musulmans, ça y est, c'est terminé. » Fait que, tu sais, d'après moi, il y a des raccourcis bizarres des deux côtés. Mais c'est pas vrai que c'est une théorie farfelue, mais je crois vraiment pas. Et dans l'article du Devoir aujourd'hui, c'est très intéressant. L'auteur, c'est quelqu'un qui émet une lettre d'opinion. Là, c'est un professeur à l'Université de Sherbrooke. Puis il dit, le vrai problème de la France, c'est pas ça pantoute. Puis c'est un vrai problème. C'est un problème qui est principalement économique. C'est-à-dire qu'ils ont été très lents à faire un virage. C'est le pays où la charge sociale est la plus forte au monde. Puis leur industrialisation a vraiment comme droppé, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, des pays comme le Canada, entre autres, puis le Québec, fait un virage industriel vers une économie plus numérique qui est clairement plus ajustée aux changements mondiaux que la France, qui est un petit peu arriérée là-dessus. Ça fait que pour lui, c'est un petit peu facile l'argument que l'immigration cause du trouble parce que ça suce trop d'aide sociale, ça crée blablabla. Bon, c'est un combat de chiffres, puis c'est surtout un combat de perception. Mais, alors, ça m'amène au point vraiment que j'ai trouvé très intéressant. Il y a une émission en France qui s'appelle Quotidien, qui est animée par un dénommé Yann Barthès, un peu une face à claque. C'est très, très populaire. Puis c'est très, très progressiste. Là. C'est tous des jeunes reporters. Puis évidemment, c'est tout le temps, ça tire tout du même bord. Contrairement à Touche pas à mon poste, qui est une émission hyper éclectique, où est-ce que si dans l'actualité, très people, très. Genre, il y a quelqu'un qui. Il y a une femme voilée dans un autobus qui a crié, ça a passé partout sur Internet, bien, elle est invitée. Fait que tout le monde est invité à ce show-là. Fait que ça des fois, c'est comme cheap à la mort. Mais ça fait tout le temps le buzz. T'sais, c'est tout le temps, c'est une émission qui marche au bout. Fait que t'as celle-là, tu sais, qui est très un peu freak show, touche pas à mon poste, qui marcherait ici à côté. Puis t'as l'autre quotidien qui est très l'animateur, entouré avec sa gang de jeunes, très à gauche, très Macron, tu sais. Et puis là, ben, ils ont évidemment un Twitter qui est fort, puis un Facebook qui est fort, surtout que c'est la France, ils sont 10 fois comme ici, tu sais, ça fait que c'est des chiffres, à chaque fois on fait comme « wow ». Puis là, il y avait un petit graphiste qui expliquait 3 choses, je trouvais très intéressant, la différence entre l'assimilation, le grand remplacement, et une autre notion qui s'appelle la créolisation, qui est amenée par un auteur qui s'appelle Édouard Glissant, un Haïtien. Je dis un Haïtien, je suis pas sûr, il me semble que j'ai lu que c'était un Haïtien, mais en tout cas, bref. C'est qu'Édouard Glissant, lui, appelle ça la créolisation. Donc, d'un côté, tu as l'assimilation. Ça, c'est ce qu'Éric Zemmour dit qu'il faut que la France recommence à faire. C'est pas juste de l'intégration. L'intégration, c'est dire, tu viens avec tes valises, tu viens avec tes croyances, tu viens avec ta religion, tu t'installes. Tant que tu suis la loi, on n'a pas de problème. C'est que ça, c'est l'intégration. C'est grosso modo le modèle canadien-anglais. Puis ici, c'est à peu près la même chose, mais c'est discutable parce que c'est des notions... avec des zones grises. Mais vous allez voir, c'est le fun parce que ça, on voit les trois façons les trois façons d'accueil d'une immigration dans un pays qui forme une nation ou qui la délite. Donc, l'intégration, je viens de vous la décrire. L'assimilation, ben, c'est l'intégration, mais culturelle aussi. C'est-à-dire, je vais vous donner l'exemple, moi, de mes voisins, les Vargas. Quand j'étais à Charlebourg, mes deux grands chums, c'était Juan et Andrés Vargas, qui venaient d'arriver du Chili. C'est-à-dire que l'étape juste avant, ils arrivaient de Sainte-Foy, ce qui n'arrivait pas de très loin. Mais au primaire, à ce moment-là, on était en 4, 5, 6e année du primaire. Donc, quelques années avant, leurs parents étaient venus du Chili parce que c'était sous le régime de Pinochet. Puis son père, je pense qu'il était un peu politisé, ça qui s'était vraiment poussé, tu sais. Ça fait que monsieur et madame Vargas est arrivé ici avec leurs deux gars. Puis moi, les Vargas, le souvenir que j'ai, là, sérieux, là, c'était pas des Chiliens. Je veux dire, oui, c'était des Chiliens, puis il avait l'air des Chiliens, mais c'est des jeunes qui sont arrivés, ils devaient avoir 8-9 ans, peut-être moins, 5-6 ans, je ne me rappelle plus en quelle année ils étaient littéralement arrivés. Mais c'était des Québécois total, là, tu sais, c'était vraiment... Puis eux autres, ils voulaient pas être des Chiliens. Tu sais, c'était pas comme genre, oui, non, ma culture, ils s'en sacraient totalement. Ils... Leurs parents écoutaient Julio Iglesias, puis ils trouvaient ça quétaine, puis, tu sais, je veux dire... C'était... Alors, eux autres étaient littéralement assimilés. Ils n'étaient pas intégrés, c'est-à-dire qu'ils ne vivaient pas avec d'autres Chiliens dans une place. Ils étaient dans un quartier, là, tu ne pouvais pas être plus Charlebourg que ça. Puis moi, ben c'était mes amis, pour qui... Puis tu sais, mes parents n'ont jamais dit « Ah, eux autres, c'est des Chiliens. » Tu sais, c'est comme... Alors, tout ça, c'était un parfait exemple d'assimilation. C'est-à-dire, tu prends les codes, tu prends la culture, tu ramasses l'histoire du pays. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que tu dis que... t'effaces pas d'où t'arrives, mais tu te fonds, puis c'est comme volontairement t'acceptes de ramasser c'est quoi toute la culture de la place où t'arrives. C'est que ça, c'est l'assimilation versus l'intégration. Après ça, ben, je viens de vous expliquer le grand remplacement. Ça, c'est complètement l'autre bord. C'est dire, bon, ben là, il y a une population qui arrive ici, et puis ils changent rien. Ils font même chialer, ils trouvent que tout le monde est raciste, ils trouvent telle affaire, puis au final... Tout ça, ça prend de l'ampleur. Puis un jour, la population autochtone, qui elle-même a pu remplacer une population autochtone, dans notre cas, on peut difficilement dire qu'on est les autochtones d'ici, mais versus une immigration qui serait complètement incontrôlée, ce qui, moi, je ne vois pas ni dans les chiffres, puis je le sens pas. Puis je vous rappelle que je suis downtown de Montréal, puis sérieux, s'il y a une place où ce que cette espèce de mélange des genres-là existe sans problème, c'est bien ici, là. C'est, je veux dire, moi, écoutez, j'étais un petit gars de Charlebourg, blanc catholique, là, on se comprend. Puis volontairement, j'habite dans une tour où est-ce qu'il y a des anglophones, il y a des arabes à mort, il y a du chinois à côté. Puis sérieux, là, ça pose aucun problème. Mais ça veut pas dire que ça pose jamais de problème. C'est ça mon point ce matin. C'est pas parce qu'un dit « Ah, c'est terrible de dire ça » qu'ailleurs, il y a pas réellement des problèmes, point barre. Ça fait que le grand remplacement, c'est comme le parfait inverse de l'assimilation de l'intégration. Et entre les deux, tu as cette notion-là de créolisation, qui est assez intéressante, qui dit que finalement, c'est l'histoire est ainsi faite. À un moment donné, les peuples se mixent, puis les choses changent, puis bon. Sauf que tu n'as pas tant d'exemples de créolisation heureuse, c'est ça l'affaire. On nomme souvent le Liban comme étant un endroit qui, avant l'arrivée des musulmans, était... une place, tu sais, très... le Liban, c'était riche, etc. Puis après, il y a eu des guerres civiles, puis là, la grosse patente. Fait qu'on nomme souvent le Liban. Mais il y a d'autres places aussi où le choc des cultures, tu sais, l'islam et la chrétienté, ça s'est pas entendu. C'est comme les Anglais puis les Français, depuis 1000 ans, c'est tough. C'est deux cultures, tu sais, qui s'opposent. Même ici, on le vit. On voit bien que le Canada anglais trouve que le Canada français, c'est une petite province à troubles, avec des tendances racistes, un peu xénophobes, blablabla, tu sais. Tu vois qu'il y a des sensibilités qui, d'une génération à l'autre, demeurent. T'as beau dire que tu vis une certaine ouverture, etc., ça se constate, tu sais. Ça fait qu'entre l'islam et la chrétienté, bien, n'importe qui est au courant des croisades et tout, ça c'était pas jojo au début. Fait qu'on peut prétendre, c'est un argument valable, de dire que tant qu'il y en a un qui, en termes de nombre... est beaucoup plus supérieur à l'autre, ben ça se vit bien parce que, bon, voilà. Mais que quand le nombre se met à être inversé, c'est un problème. Ce que je trouve dommage, puis c'est vraiment mon point ce matin, c'est j'essaie de vous décortiquer tout ce que j'apprends par rapport au cas de la France, où est-ce que c'est vraiment plus en ébullition sur ces questions-là qu'ici, où je trouve que ça ne l'est pas puis ça n'a pas besoin de l'être. Mais c'est comme si, tu sais, c'est des questions genre, ah mon Dieu, il ne faut pas aborder ça, ça n'a pas rapport. Ce que je trouve qui est glissant, c'est de tirer des conclusions de tout ce que j'essaie de vous dire là. Il n'y a pas de grande conclusion à faire parce que c'est des cas d'espèce, c'est des zones grises. Je prends le parfait exemple, c'est de dire que si je regarde un quartier en banlieue de Paris, qui est bourré raide d'Algériens, de Marocains, avec des habitudes, des commerces, etc., c'est vrai que tu peux dire « Ah, mon Dieu, la France se meurt ». Puis si tu t'en vas voir, je prenais l'exemple de la Provence, tu fais comme « Ben, coudon. Ça fait que là, toutes ces notions-là, ce que je trouve le fun, c'est de les posséder, de comprendre assimilation, intégration, grand remplacement, créolisation. Tu fais comme, ah, OK. Après ça, ben, ce qui est intéressant, c'est que quand tu vois un média dire, ben voici, nous autres, on a fait un reportage, puis on vous amène ça, ben tu le sais que si c'est un média à droite, ils vont avoir tendance à trouver que, ah, oh, mon Dieu, l'immigration, c'est out of control. Si c'est un média à gauche, c'est comme, il n'y a pas de problème, c'est beau, tout le monde s'entend bien. La vérité, je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme, c'est pas blanc ou noir, là, pas du tout, là. Il y a effectivement toutes sortes de zones grises, puis tu peux l'échapper d'un côté comme de l'autre. C'est pas facile vivre en démocratie, c'est pas évident de... Le monde voudrait avoir des réponses simples à des problèmes compliqués. Puis des fois, les gens voient des problèmes où techniquement, il y en a honnêtement pas. Puis je vous donne encore l'exemple du centre-ville de Montréal. Je parlerai pas pour Montréal-Nord, je parlerai pas pour d'autres places. Où est-ce que ça revole plus, tu sais? C'est pas mon sujet, puis je m'y connais pas, j'habite pas là. Mais au centre-ville, sérieux, là, il y a une place au Québec, non pas deux, là, il y a une place où vraiment il y en a pour tous les goûts, c'est au centre-ville de Montréal. Puis je te dis, là, tu quittes le centre-ville, c'est pas long, là, que tu t'en vas juste un petit peu à l'est de Saint-Laurent, là, puis c'est comme, ah, ils sont où, là, Hochelaga, Maisonneuve, les Noirs, les Arabes? Il n'y en a pas plein, là. Tu t'en vas à Westmount puis à Outremont, m'a dire de quoi, c'est blanc longtemps. Tu sais, quand tu dis centre-ville, là, c'est pas gros, là, c'est pas énorme le centre-ville de Montréal. Mais là, tu le vois que c'est bigarré. Puis sérieux, là, je vous le dis. Là. Moi, je vois des Montréalais. Je vois pas nécessairement des Québécois, puis encore là, on joue ces définitions. Dans l'imagerie populaire, là, c'est pas nécessairement voici une série de Québécois, mais je peux vraiment dire voici des Montréalais. Eux autres, ils vivent à Montréal, ils sortent à Montréal. Il y en a qui parlent anglais, il y en a qui parlent français. Il y a où le problème de décrire la réalité? C'est terrible. Patrick Lagacé a fait un article là, ce week-end, puis il parlait là, des fusillades, là, t'sais, puis de l'intervention de la police à Québec, où est-ce qu'une journée, il y a un jeune qui se fait arrêter en face du Dagobert, puis là, c'est comme aïe aïe, c'est de la brutalité pure, puis le lendemain, on apprend que son grand chum se fait arrêter, deux jours après, je pense, son grand chum qui était là lors de cette arrestation-là, c'est un proxénète qu'il aurait violé des mineurs, là, tu sais. Fait que tu fais comme, bon, attends un peu, là, qui... Là, encore une fois, là, l'histoire est plus grise qu'on pensait. Puis, je veux dire, bon, ça fait que tu te rends bien compte que dans tous les cas qui traitent racisme, qui traitent... Il y a tout le temps comme des analyses qui sont juste flagrantes, puis qu'après ça, tout le monde veut aller plus loin encore. Puis ce que Patrick Lagacé disait, c'était « Ah, ben si vous faites juste regarder que c'est surtout des Noirs qui sont dans les gangs de rue, ben là, vous arrêtez à la couleur parce qu'ils font un trafic de drogue, mais qui la consomme, la drogue? Ben c'est peut-être plus des Blancs. Puis qui fait rentrer les guns, ça peut être des Blancs. » C'est tout vrai. C'est tout vrai, mais sa conclusion, c'était un peu... Ça fait que dans le fond, ce qui vous intéresse, c'est de pointer du doigt quelle est la couleur du criminel. Non. Moi, ce qui m'intéresse, là, sérieux, là, c'est le réel. Puis l'histoire. C'est quoi l'histoire des événements? Parce que ça explique pourquoi ça arrive. Jusque-là, je trouve que c'est banal. Puis c'est quoi la réalité? Je veux dire, à un moment donné, un chat, un chat. Après ça, si ça cause des conclusions erronées, c'est un autre problème. Mais moi, décrire ce qu'il y en est, c'est la même chose avec toutes les questions gars-filles. Tu sais, oh là, on peut pas dire, puis c'est pas vrai, les filles. Mais arrêtez, là, il y a des tendances. Les filles jeunes aimeraient se marier. C'est-tu grave là, de dire ça? Les filles, quand ils sont jeunes, encore aujourd'hui, le mariage, c'est quelque chose. Probablement moins populaire que l'époque de ma mère. Fine. Mais quel gars jeune veut se marier? Ça n'a jamais existé. Il n'y a pas un gars qui a 7 ans et qui dit « Moi, je vais être pompier et avoir un grand mariage en tuxedo. » Voyons donc. Ça fait que une fois que tu dis ça, ça devrait être comme banal. Mais là, tout le monde va à l'autre vitesse après. « Ouais, ça veut dire que... » Non, non. Non, ça ne veut rien dire que... C'est que ce serait le fun qu'on puisse échanger des idées. Puis là, après ça, on peut être en désaccord, par exemple, sur la suite des événements, sur la façon de... Par quel bout on pogne ça? C'est parfait. Ça fait qu'en tout cas, ce matin, je trouvais que... Parce que ce sujet-là, moi, je l'ai dans la face à journée longue, parce que je suis très plugué sur la France. Puis eux autres, c'est chaud, là, c'est la totale. Ça fait que ça amène toutes sortes d'excès de tout bord, de tout côté. Puis je déplore pas ça, c'est la vie, là. Moi aussi, là, c'est pas vrai que j'ai tout le temps là, mon radar est parfaitement calibré. C'est complètement faux. Mais je trouve que quand tu décortiques les choses, là, puis je trouve ça bien l'exemple du petit graphique de quotidien là, qui disait assimilation, grand remplacement, créolisation. Ça, moi, je trouve, une fois là, que tu as vu ça, puis que tu fais, ben, coudonc, en quoi ces affaires-là sont farfelues? Alors, est-ce que ça s'applique à notre cas A, B ou C? Ben voilà, ça, c'est la suite de la discussion. Mais il y a tellement de... C'est tellement allergique comme propos. Moi, j'accepte pas ça. Je refuse d'entrer là-dedans. C'est pas vrai que vous allez m'empêcher de dire, « Hey, regarde, là-bas, c'est un pot de fleurs. Un pot de fleurs. » Et après, il y a une autre conversation, ou même pas du tout. Ça fait que... Écoutez, j'espère que c'est... J'espère que le thème vous intéresse, là. En tout cas, écrivez-moi si ça vous tente qu'on jase de ça ou de autre chose, là. Mais ce matin, c'était comme très présent, là, quand je lisais mes affaires. Une belle journée aujourd'hui, gros soleil. Hier, là, c'était notre Assemblée générale annuelle où on a été, tout le conseil, là, les cinq, on a été réélus. Donc, je vais m'occuper encore du building pendant un an. Et minimum, je suppose. Puis, tout à coup, il y a eu des bourrasques de vent, là. Tabarouette! À pas y croire. Moi, je suis haut, là. Puis, il n'y a pas de drapeau, il n'y a rien. Tu sais, moi, il y a une tour qui se construit en face de chez nous. C'est que c'était encore sur le ciment. C'est qu'il n'y avait pas d'indice visuel. Mais je voyais vibrer ma fenêtre. C'était incroyable. Tu sais que ça sort des rafales de même, c'est malade. Puis ce qui est poche, c'est quand tu veux faire du vélo, là, puis que tu regardes, là, il va y avoir des rafales à 50-60 km/h. My God, que c'est gazant. Parce que oui, mesdames, messieurs, je vais recommencer à faire du vélo bientôt d'hiver. J'en ai vraiment pas fait beaucoup dans les dernières semaines. Là, il faut que j'aille faire poser mes pneus cloutés. Y a-tu des cyclistes d'hiver dans la salle? Manifestez-vous. Alors, voilà tout le monde. Salut, bye.